Bonjour, cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre de Dominique Volton, licencié en droit, docteur en sociologie. Dominique Volton est directeur de recherche au CNRS, où il assume la direction du laboratoire Information, communication et enjeux scientifiques, auteur de nombreux livres, dont Le choix de Dieu, que nous connaissons bien ici, entretien avec le cardinal Lustiger aux éditions de Fallois, et plus récemment, L'autre mondialisation, publié en 2003 aux éditions Flammarion. Dominique Volton, bonjour.
Bonjour.
Brièvement, hein, pour qu'on puisse vous situer, je voulais savoir en quoi consiste votre métier.
Mon métier, en fait, je m'intéresse à la communication, qui est une très vieille question humaine. En gros, j'aurais finalement passé ma vie à faire une théorie de la communication dans son rapport avec la démocratie. C'est-à-dire, je dis que la communication est un mot qui, hélas, n'est pas très valorisé, mais que c'est le fondement même de l'expérience humaine, le fondement même de toute société. Et le fondement de la démocratie, puisque communiquer avec quelqu'un, c'est le reconnaître comme sujet. Donc ça suppose la liberté et l'égalité des individus. Et ça suppose à la fois de reconnaître l'égalité des sujets, celui qui est en face de soi, et surtout reconnaître l'altérité, parce qu'en définitive, la communication bute très vite sur l'incommunication, donc sur la difficulté à cohabiter, alors qu'en fait, on aurait voulu se comprendre. Et je trouve que ce mot est un des mots qui symbolise le plus à la fois l'expérience humaine, désir de rencontrer l'autre et de partager quelque chose avec lui, prise de conscience de ce que l'autre en définitive est différent de moi et que ou bien je le tue ou bien je cohabite avec lui, et du coup essayer de construire une relation qui respecte la différence et l'altérité. Donc c'est à la fois, je trouve, l'expérience de l'individu, l'expérience de la société, l'enjeu de la démocratie et finalement, si je puis dire, l'horizon de la mondialisation, si nous arrivons à faire que la mondialisation soit autre chose qu'une espèce de jungle économique.
D'accord. Et pour vous, ces études, ça a été pour connaître un peu mieux l'espèce humaine ?
Vous savez, en fait, un chercheur, on ne sait pas bien pourquoi on cherche au départ, hein, ça c'est clair. On le sait rétrospectivement. Moi, en fait, finalement, quand je relis la totalité de mes travaux, c'est cette question-là qui m'intéresse. En fait, la question de la communication, c'est la question de l'incommunication. Voilà. Et donc, j'essaie de réfléchir aux conditions pour lesquelles, alors que les êtres humains ne se comprennent pas, et les sociétés, évidemment, et les cultures non plus, à quelles conditions tout de même on peut faire qu'elles se cohabitent et qu'elles s'entendent un tout petit peu, étant donné que si jamais nous ne cohabitons pas pacifiquement, alors la communication peut devenir un enjeu de paix et de guerre. Et si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse. C'est le décalage entre cette recherche de la communication que nous avons tous, regardez les adolescents avec leurs multibranchés, oui. Le fait que ça a du mal à marcher, et le fait qu'en même temps il y a des industries mondiales qui sont d'une puissance gigantesque là-dessus, et qu'en définitive elles n'apportent pas forcément de communication interculturelle. Donc j'oppose l'idéal de la communication par rapport à la performance et la rationalité des machines, et par le fait qu'au bout d'un moment, tout ça ne suffit pas, et que si on veut vraiment que les individus ou les peuples communiquent, eh bien, il faut admettre que, un, il y a de l'incommunication, je l'ai dit, et deux, surtout, il faut énormément de temps. Et ça m'intéresse, ce décalage entre la vitesse et la performance des machines, et l'extrême lenteur de la compréhension humaine et sociale.
Et ça vous a permis, tout ça, de mieux comprendre l'homme dans son environnement ?
Disons que j'ai une philosophie qui ressemble un peu à celle de Raymond Aron, c'est lui qui m'avait appris cette phrase, sceptique actif, c'est pas de lui, mais je pense que c'est bon. C'est-à-dire, en gros, je pense que l'homme est pourri, mais qui peut toujours naturellement faire le bien comme le mal. Si vous voulez, nous, les sciences humaines et sociales, par rapport à la physique, la chimie, les maths, on a une supériorité qui est tragique. C'est qu'en maths, en physique, en chimie, il y a une accumulation des connaissances. Nous, en sciences humaines et sociales, nous savons qu'il n'y a pas d'accumulation du progrès. C'est-à-dire que la société la plus raffinée, la plus sophistiquée peut devenir la plus barbare en même pas 10 ans. Donc cette expérience humaine fait que nous savons très bien que le précipice est toujours proche de ce qu'il y a de plus beau. Donc, disons que c'est ce qui m'intéresse. Je n'ai pas d'illusion sur l'homme. Je pense que l'homme se grandit quand même de siècle en siècle. Il y a tout de même des valeurs qu'il transcende, que l'on soit athée ou croyant. Moi, personnellement, je suis plutôt croyant, évidemment. Mais je trouve que ce qui m'intéresse, que l'on soit dans une perspective laïque ou dans une perspective métaphysique, je trouve que, ce qui m'obsède, c'est cette phrase, il y a toujours une marge de manœuvre. Et autrement dit, entre le bien et le mal, on peut toujours choisir. Et il n'y a pas de détermination absolue. Je suis antidéterministe. Voilà, ça c'est vrai. Je pense que la liberté de l'homme et que la liberté des sociétés fait qu'on peut soit se grandir, soit s'abaisser, mais qu'on n'est jamais obligé d'aller dans le mur. Et ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est systématiquement dans l'ensemble de mes livres, de montrer et de mes recherches qu'à chaque fois une marge de manœuvre, je déteste ceux qui sont déterministes et surtout ceux qui sont catastrophistes.
Et vous pensez que les gens qui gouvernent aujourd'hui sont déterministes et catastrophistes? Ils y ont un intérêt d'ailleurs?
Non, vous savez, nos pauvres hommes politiques font un peu les plaintes pour deux raisons. La première, c'est que maintenant, ils sont complètement sous l'œil des caméras et des médias, donc ils sont complètement transparents, on les voit complètement. Donc ils peuvent plus se cacher, ils peuvent rien. D'autre part, ils savent très bien qu'ils peuvent pas faire grand-chose parce que nos sociétés sont complètement coincées. Donc par conséquent, on leur demande d'avoir une vision de l'avenir que personne ne peut avoir. Les problèmes sont devenus mondiaux. En même temps, ils dépendent des élections. Donc ils sont dans une situation complètement incertaine où à la fois, ils sont dévalorisés, on leur demande d'être honnêtes, ne peuvent pas acheter un café sans qu'on vérifie qu'ils n'ont pas pris de pique dans la caisse. On leur demande de savoir prévoir l'avenir à 15 ans alors qu'à 3 mois, ils ne savent pas. Et donc, par conséquent, je trouve qu'il faut valoriser les hommes politiques parce que la politique en démocratie, c'est une très grande chose. Et ça va du quotidien par la municipalité jusqu'à l'ONU. Et donc, moi, personnellement, je pense que la politique, c'est une grande chose et que nous, les Européens, nous pouvons non pas apporter une philosophie politique au reste du monde, c'est pas vrai, parce que quand on voit les grandes civilisations du Proche et du Moyen-Orient ou de l'Inde ou de l'Amérique latine, mais tout de même nous avons quelque chose à dire qui est à la fois de croire dans la rationalité, de croire un peu dans la science et la technique et de croire tout de même dans les droits de l'homme et de la démocratie qui sont tout de même des valeurs exceptionnelles que nous avons trahies souvent mais que nous avons inventées aussi.
Vous avez un espoir quand même dans l'homme ?
Oui, je pense que oui. Disons que voilà, la question qui m'intéresse en recherche aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça change une fois que tout le monde sait tout et tout le monde voit tout. Et si vous voulez, on est aujourd'hui dans une période de l'histoire où, grâce à la mondialisation des systèmes d'information, chacun voit tout, chacun sait tout. Mmh. Donc ça rend le monde encore plus fragile parce qu'on en voit les inégalités, les injustices. Donc de deux choses une, ou bien ça créera de plus en plus de révoltes. Et je le dis souvent, la mondialisation peut tout à fait déboucher sur une lutte des classes au niveau mondial. Absolument, comme on l'a connu en Europe pendant 150 ans. Ou bien au contraire, prenant conscience de ce que l'homme est intelligent partout et que grâce aux moyens d'information, il sait tout, il voit tout, on construira une forme de cohabitation culturelle où on respectera les différences et les civilisations. Après tout, nous sommes tenus par la charte de l'ONU, qui est un texte absolument superbe, qui reconnaît l'égalité des civilisations et des religions et des cultures, à nous de la respecter. Et ce que j'essaie de dire, c'est que l'objectif de la communication est finalement exactement le même que celui de la politique, c'est-à-dire organiser la cohabitation pacifique d'intérêts ou de visions du monde qui sont contradictoires. Dans la communication, on recherche l'autre qui me ressemble, on tombe évidemment sur l'autre qui ne me ressemble pas, et donc je dois organiser une cohabitation relationnelle. Et la politique, c'est la même chose, la grandeur de la politique en démocratie, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts, pas les mêmes visions du monde, et on accepte un minimum de règles communes. Et je trouve que communication et politique sont des concepts de même niveau, qui renvoient tous les deux à l'idéal, à l'idée qu'en définitive, l'homme n'a pas de vision commune du monde, mais qu'on peut organiser la cohabitation pacifique. Et je trouve qu'après tout, il faut revaloriser aujourd'hui la communication, qui est un mot tout à fait dévalué, de manière complètement ridicule, alors qu'en fait, il est la condition de la politique. La politique, pas de démocratie, pas de démocratie sans communication. C'est pour ça que je suis favorable à la presse écrite, à la radio, à la télévision, parce que si on veut avoir des médias de masse, si on veut avoir une démocratie de masse, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, il faut des médias de masse. Et de toute façon, soyons honnêtes, les médias de masse dont on a vraiment craint pendant une trentaine, une quarantaine d'années qu'ils allaient aboutir les peuples, ben, on a la preuve aujourd'hui que c'est pas vrai, pour une raison très simple qu'on avait sous-estimé, c'est que le même message adressé à tout le monde, c'est le cas de la presse écrite, de la radio, de la télévision, n'est jamais reçu de la même manière. Donc la diversité des récepteurs empêche la manipulation des consciences. Donc nous sommes là dans des questions de théorie politique, et c'est vrai, je crois qu'il n'y a pas de politique aujourd'hui sans communication.
Vous nous disiez que pour vous, l'homme était pourri.
Quand je dis pourri, c'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire et que d'une certaine manière, nous-mêmes, on ralentit sur une autoroute pour voir les résultats de l'accident sordide que l'on voit à gauche. Et nous sommes totalement égoïstes. Et en même temps, chacun d'entre nous est capable de montrer un idéalisme grand. Moi, je prends des événements optimistes de cet été 04. Ben, écoutez, que le 1er mai, l'Europe ait accepté cet élargissement à 25, c'est un acte d'une immense importance historique. Un jour, on sera 28 et 30. C'est un pari extraordinaire. Il y a 20 langues sur 25 pays. On n'a rien à se dire. On s'est battu pendant des siècles. C'est un pari formidable. Et autre pari formidable pour montrer l'optimisme des choses tout de même, le 6 juin, on a fêté le 60e anniversaire du débarquement. Je trouve que c'était une grande émotion de voir les Allemands présents à cette cérémonie et les Russes. Parce que les Allemands, c'était les ennemis d'avant-hier et les Russes, c'est les ennemis d'hier. Et je trouve que l'Europe a fait un pari incroyable là en fêtant cet anniversaire pour montrer qu'en définitive, elle était capable de tourner les pages. Voilà. Donc ça n'empêche pas par ailleurs les égoïsmes et les intérêts, mais ça prouve que l'homme est capable d'idéal et d'idéaux. Et c'est en ça que je suis un sceptique actif. Et en gros, bon, c'est le problème du verre à moitié vide, à moitié plein. En même temps, regardez, en 50 ans, l'écologie est quand même un grand mouvement culturel et politique qui est sorti, qui aboutit à ce qu'on ait conscience aujourd'hui que le monde est fragile. Les ONG sont tout de même quelque chose qui mobilise de l'humanitaire, quelles que soient les ONG. Voilà, et donc il y a quand même des causes d'optimisme.
Et l'homme, pour vous, c'est qui? Alors là, je prends l'homme, l'être humain, hein, sur la Terre, avec son évolution. Donc c'est qui l'homme pour vous?
L'intuition qui me vient à la seconde, c'est quelqu'un qui a une immense intelligence accumulée par des siècles et des siècles d'adaptation. C'est pour ça que je cesse de dire... tous les hommes sont intelligents, même ceux qui sont analphabètes. Parce que mettez un Américain hyper équipé de technique, mettez-le 8 jours au sud du Sahara ou dans l'Afrique équatoriale ou dans le plateau des Andes, il est complètement paumé. Donc si vous voulez, toutes les sociétés, toutes les civilisations ont une intelligence du climat, de l'espace, du temps. Et donc par conséquent, je trouve que la grandeur de ce monde fini dans lequel nous sommes maintenant, puisqu'il n'y a plus d'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus d'ethnologie possible, parce que tout le monde est dans ce petit monde. Et bien je trouve que la grandeur que nous aurions aujourd'hui, c'est pas de croire qu'il y a un ailleurs, parce qu'il n'y a plus, mais c'est de faire un effort d'intelligibilité de la grandeur des civilisations et des cultures qui n'ont rien à voir avec la rationalité occidentale, mais qui ont été capables de construire des cosmogonies, des systèmes techniques, des systèmes politiques. Et si vous voulez, ce que je dirais, tous les hommes sont intelligents, même s'ils sont totalement analphabètes. L'Occident a tort d'avoir cet orgueil. Les Européens, nous sommes un tout petit peu moins modestes, un tout petit peu plus modestes parce que nous avons perdu 2 guerres mondiales, plus toutes les guerres de décolonisation. Les Américains sont aujourd'hui ridiculement arrogants parce qu'ils confondent la puissance technique et la puissance économique et la puissance civilisationnelle. Mais après quelques échecs, ils deviendront modestes. Donc je trouve que ce que nous, l'Occident, nous aurions à apporter dans la compréhension de la diversité culturelle mondiale, c'est ça, c'est que nous savons que l'autre existe et que l'autre, il a, malgré des niveaux de vie radicalement différents, une richesse culturelle, anthropologique, philosophique, métaphysique, ontologique, qui est exceptionnelle. Donc, il y a du boulot sur Terre, si on veut arriver à se tolérer, à se connaître un petit peu.
Et pour vous, le Christ, c'est qui ? C'est un homme ?
D'abord, c'est une figure historique, c'est sûr. C'est une figure historique et moi, personnellement, je suis catholique et chrétien. Je considère que, si vous voulez, que des grandes religions du livre, nous avons l'Église, malgré toutes ces tragédies, ces horreurs, ces mensonges. Nous tendons vers l'universalisme dans l'histoire de l'humanité. Donc ça veut dire que quelque part, cet effort extraordinaire que l'Église catholique fait vers l'universalisme, et je trouve quelque part une figure, une représentation de ce que pourrait être en définitive une vision chrétienne de l'humanité, voilà, ou d'une eschatologie. Mais oui, je pense que, à la limite, je dirais intuitivement, oui, l'homme est à l'image de Dieu, oui.
Donc pour vous, le Christ, c'est Dieu fait homme, alors ?
Ah, je trouve ça superbe. En métaphysique, je trouve ça, et en ontologie, je trouve ça absolument superbe. Absolument. Même pour quelqu'un d'athée, je trouve qu'il y a là, enfin, une espèce d'immensité. Oui, l'immensité des horizons. Enfin, Pascal l'a dit mieux que nous, surtout. Oui. Oui, c'est superbe.
Pour vous, qui êtes un spécialiste des médias, donc, le Christ a-t-il été un homme qui connaissait les techniques de la communication et de l'information? Avec les moyens de son époque, évidemment.
Bah, disons, le Nouveau Testament, on pourrait le réduire, si on voulait, à une théorie de l'information et de la communication. Ça en est en part. Oui, il y a quand même des messages.
Oui, il y a des messages, ça, c'est très clair.
C'est des messages, c'est d'ailleurs très intéressant. Si, je n'avais pas pensé du tout à votre question, mais c'était à la fois des messages. Il y a une théorie de la communication, c'est clair, c'est-à-dire une conception de l'émetteur du message et du récepteur. Et c'est une communication au sens où le récepteur, enfin les récepteurs, les peuples ont entendu ou n'ont pas entendu ce message. Donc oui, on peut réduire. Ceci dit, je pense que ce qui est super dans les évangiles, c'est évidemment l'extrême simplicité des textes et leur caractère universel et le fait qu'il y a une heuristique dessus depuis des siècles d'interprétation et que ce soit devenu plus ou moins universel, en tout cas mondial. Donc oui, mais disons que la dimension métaphysique, à mon avis, transcende la dimension communicationnelle, mais après tout, je suis persuadé que dans la communication, c'est évident, il y a de la métaphysique.
Parce que par exemple, quand il va sur le lac, le Christ, il y va pas par hasard, il y va pour se faire entendre.
Oui, mais parce que je pense que comme tout acteur, il a une stratégie de communication, mais c'est pas parce qu'il dit des choses et qu'il a l'intention de faire quelque chose, c'est ça qui m'intéresse dans la communication, que ça réussit pour autant. Si vous voulez, l'émetteur et le message, c'est pas le récepteur. Mmh. Et en fait, la grande innovation qu'on a trouvée en un siècle, c'est de s'apercevoir que le récepteur, c'est à vous, moi, et aujourd'hui des milliards d'individus, on a la tête dure, c'est-à-dire qu'on retient que ce qu'on veut retenir.
Oui.
Et du coup, c'est ça qui rend de plus en plus compliqué et de plus en plus passionnant pour moi la communication, c'est qu'autrefois, on pensait qu'il suffisait de dire quelque chose au travers d'un bon tuyau pour que ça passe le message. Ben non. Aujourd'hui, il y a une disjonction entre l'information et la communication. L'information, c'est le message. La communication, c'est la relation. Et c'est pour ça que c'est la communication qui m'intéresse, parce que c'est bien plus compliqué que le message. Il ne suffit pas de dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il accepte. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que je dis quelque chose pour que la personne l'accepte ou le renégocie, et comment, moi, en retour, je suis prêt à entendre quelque chose que cette personne veut me dire et que je n'ai pas forcément envie d'entendre. Et comme c'est pour ça que c'est souvent un dialogue de sourds, la communication, d'ailleurs.
Et justement, est-ce que si le Christ revenait, vous pensez qu'il sera entendu aujourd'hui ?
Ah, je pense que c'est sûr qu'il n'utiliserait que partiellement les techniques modernes. C'est-à-dire qu'il serait peut-être en radio, en télévision. Parce que, en fait, c'est la voix. Si vous voulez, L'essentiel de la communication, c'est la recherche de la voix, parce que c'est la question de l'amour, la communication, donc ça passe par la voix et l'échange entre les êtres humains. Il utiliserait peut-être un petit peu les nouvelles techniques de communication style Internet, mais je pense que l'essentiel de son message, il est d'une part dans un texte, donc dans du texte, dans de l'écrit, et il est d'autre part dans la rencontre charnelle, et après tout, le génie de l'Église dans la liturgie. Et dans l'ensemble de ses activités sacerdotales et autour, c'est tout de même constamment, et c'est en ça qu'il y a une force quand même de l'Église catholique et des Églises chrétiennes, et de l'ensemble des religions, il faut bien le dire, il y a toujours du contact humain. Si vous voulez, si vous regardez les trois religions du livre, elles sont tout le temps dans des échanges de rapports physiques, et je pense qu'il y a de la grandeur là-dedans, et une avance par rapport à notre société qui est complètement obsédée par les techniques d'information et de communication, où les ados passent des heures et des heures. Il y a une pub actuellement, on dit, grâce à un mini-disque, que vous allez pouvoir enregistrer 45 heures de musique. Donc je me dis, s'il y a 45 heures de musique enregistrée, ben, qu'est-ce que fait le gosse et l'adolescent? Qu'est-ce qu'il lui reste comme activité sociale extérieure? Et donc nous avons une abondance complète de branchements possibles, d'interactions techniques, et on sait bien que plus il y aura de l'interaction technique, plus il y a des risques de solitude et de schizophrénie même, et plus la question de la rencontre physique, de regarder l'autre, de lui parler, de le toucher est fondamentale. Et toutes les religions ont ça comme richesse, comme capital.
Et vous parlez de religion. Religion, c'est relier l'homme et Dieu. Et vous êtes relié à Dieu?
Je laisse cette question m'occupe régulièrement. Elle m'occupe, alors comme je suis tradition catholique, j'adore les églises, les bâtiments religieux, mais j'adore le son des cloches. Parce que je pense que ça a été la manière dont l'église très intelligemment a marqué le temps. Et partout, je dis, il faut entendre les sons des cloches. Et très souvent, dans mes conférences ou quand je faisais de l'enseignement, je disais aux étudiants, même si vous êtes athées, entendez, parce que c'est la tradition occidentale. Ailleurs, c'est autre chose, c'est d'autres bruits. Mais je trouve que les cloches d'une église ou d'une cathédrale ou d'une chapelle, peu importe, c'est quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne, qui renvoie notamment à la culture occidentale, mais à cette tradition chrétienne. En tout cas, s'il existe, je laisse la place.
Mais vous le connaissez, vous, Dieu? Vous l'avez rencontré? En communication?
En communication, non. Enfin, moi, je crois que la question de la communication, c'est la question de l'amour. Donc, la question de l'amour, c'est la question des métaphysiques. Donc, c'est la question de Dieu. En gros, je pense que c'est pas complètement hasard que je travaille là-dessus depuis 30 ans maintenant. Et que, oui, je pense que c'est la question de l'autre qui m'intéresse. C'est de l'autre, c'est à la fois la rencontre et l'altérité. Et finalement, la question qui est posée par toute religion, mais je suis catholique, c'est à quelles conditions est-ce que l'on peut rencontrer l'autre et à quelles conditions il y a de l'universel dans l'autre, c'est-à-dire de du divin. Bon, je trouve simplement, parce que je suis catholique, qu'il y a quelque chose de superbe dans cette trinité. Je trouve que c'est un
Père, Fils et Saint-Esprit. Oui.
Je trouve que c'est quand même exceptionnel du point de vue esthétique et du point de vue intellectuel. Et que je ne sais pas si tout ça existe. Mais esthétiquement, c'est une immense grandeur. Et en tout cas, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le genre de phrase qui, comme je le dis dans presque toutes mes conférences, a 500 millions d'années devant elle. Parce que bien sûr que ça ne marche pas. Mais cet idéal normatif est évidemment ce qui rappelle à l'homme sa grandeur et sa capacité à dépasser toutes les barbaries qu'il peut faire par ailleurs. Donc c'est vrai, fondamentalement, je suis un sceptique actif. Mais en fait, je crois que la figure de Dieu est dans l'homme et que... Oui, finalement, je serais assez optimiste si j'avais la force de porter tous les jours l'amour que nous devrions porter.
Donc Dieu est Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit, et il est l'autre.
Oui, c'est ça.
Il est chacun de nous.
Oui, il est à la fois, il est à la fois l'altérité qu'il y a chacun d'entre nous et ce vers quoi on tend pour essayer de le dépasser ou de négocier avec, oui. Oui, je sais très bien que il y a ce qui est très peu vu, vos questions me perturbent parce que les gens me les posent jamais, mais c'est vrai que moi, dans mon fort intérieur, je sais très bien qu'il y a un lien fort entre les théories de la communication, enfin, tout ce que je fais autour des rapports entre communication, culture, politique, société, mondialisation, et une problématique métaphysique, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des signes pour vous de l'existence de Dieu dans votre vie?
Si vous voulez, ma réaction est instantanée, ça consiste à dire c'est ma vie privée.
D'accord, mais...
C'est-à-dire que je crois beaucoup qu'une société de communication, d'échange, etc., oblige à respecter le privé et le public. Alors, je peux quand même répondre, oui. Quelquefois, pour des événements heureux ou malheureux, ai-je rencontré, en tout cas, j'ai eu des moments assez forts. Mais c'est vrai que à la fois, c'est très, très, la radio est probablement le système de communication le plus exceptionnel. Il faut quand même rappeler qu'on est 6 milliards et demi sur Terre et qu'il y a 4 milliards et demi de postes de radio, 3 milliards et demi de postes de télévision, 1 milliard et demi de postes de téléphone portable et moins d'un milliard d'ordinateurs. Donc, c'est vous dire, c'est la radio, c'est pour longtemps l'outil de communication le plus humain. Parce que c'est la voix, encore une fois. Mais quand même, J'ai beaucoup de pudeur à parler publiquement de choses qui sont relativement privées. Bon, en tout cas, parce que je crois pas mal à la séparation privée-publique.
Ah non, mais vous pensez que ma question, elle était vraiment de l'ordre de la sphère privée ?
Oui, parce qu'elle consiste à poser une question, ce qui est tout à fait normal. Et si j'y réponds, je suis obligé de donner des éléments de ma vie. Non pas que j'ai de secrets, loin de là, pas du tout. Je suis quelqu'un de plutôt assez ordinaire, qui recherche un peu d'amour, un peu de recherche de la connaissance et tout ça, mais...
Non, moi ce que je voulais savoir en fait, c'est si vous étiez sensible à des signes concrets. C'était ça hein, ma
question.
Alors
pour l'instant, je ne les vois pas tous les matins, mais je pense que quand ils se manifestent, je suis susceptible de les voir. Voilà.
D'accord.
Enfin, disons, je les vois sur des choses qui sont alentour, qui sont des atmosphères, des lumières, des couleurs. La lumière, c'est très important, même quand on est dans une ville où on ne voit pas grand-chose du ciel. Des postures, des situations. Je dirais, voilà, ça pourrait se traduire dans des instantanés qui sont soit auditifs, soit visuels, soit relationnels, oui. Enfin, oui. En tout cas, je laisse faire pour que les choses puissent être éventuellement.
Et Dieu, vous le voyez comment ? Vous, Dominique Volton, là, pas le chercheur, vous le percevez comment, vous ?
Comme représentation ?
Oui.
Bon, moi, je suis assez, si vous voulez, là, pour le coup, je suis marqué par tout le système de représentation des images de la tradition chrétienne. Donc, c'est-à-dire, à la fois, je vois le Fils, je vois pas le Père, je vois pas le Saint-Esprit, je vois une espèce de... Non, à la limite, si vous voulez, là où ça se perçoit le mieux, c'est tout de même dans une église. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, c'est dans une église, ou dans une chapelle, peu importe. C'est-à-dire là, quand même, vous êtes saisi par la taille du bâtiment et par l'atmosphère qu'il y a dedans. C'est en ça que je suis toujours admiratif de ces milliers d'hommes, cette femme qui ont construit, qui ont bâti ces monuments. Là, je connais un peu le roman de Haute-Auvergne, si vous voulez. Enfin, de base, c'est de Haute-Auvergne. Quand on voit les conditions dans lesquelles on faisait du granit et du volcan, et de la roche volcanique pour faire ces toutes petites absides, je trouve que là, il y a... Mais en même temps, Sainte-Sophie, c'est exceptionnel. Donc, je ne suis pas panthéiste, mais disons que je suis sensible à ma culture et à mon espace symbolique. Je connais moins les autres, ça sur l'hindouisme, et j'ai beaucoup de mal parce que je ne comprends pas. Mais en même temps, je suis ému à chaque fois de la capacité qu'il y a à investir de la métaphysique dans n'importe quel bâtiment.
Sans rentrer dans les détails, vous lui parlez à Dieu. Est-ce que vous avez une communication directe avec lui?
Non. Pas sous le mode de la prière comme ça, ou sous le mode de l'interjection, ou sous le mode de la colère. Non, je l'ai beaucoup plus fait quand j'étais jeune, parce que j'avais une enfance, une adolescence qui n'était pas particulièrement heureuse. Donc, par conséquent, j'avais toujours cette question, pourquoi, comment, etc. Mais là, non. Je laisse flotter les choses. Non, je n'ai pas ce dialogue que certains peuvent avoir, soit au travers de la prière, soit... Non, je l'ai plutôt dans des flashs, dans des instantanés, en définitive, voilà, sur la vitesse de l'instant.
Et votre foi d'enfant, vous vous en souvenez, justement ?
À peu près, oui. Ça m'intéressait. Ça m'a toujours... Voilà, c'est en fait la réponse que je donne aux gens. Ça m'intéresse.
Ça vous intéresse ? Donc ça vous a pas quitté,
non,
en fait ?
Non, je crois que ça m'intéressera toujours. Si vous voulez, oui, même... Sinon, ça m'intéresse toujours. Et même dans ma posture de recherche, dans ma posture de citoyen, dans... vous avez fait allusion tout à l'heure au livre que j'avais fait avec Jean-Marie Lustiger. Bon, tout de même, il fallait que je connaisse un tout petit peu d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. J'étais paniqué à l'époque parce que c'est pas évident. Bon, je trouve que l'exercice a été plutôt réussi, mais ça demandait de ma part une appétence, je prends le terme le plus neutre, pour être capable de comprendre des questions. Mais enfin, j'ai rencontré l'humain et naturellement de la religion avec lui. Ça a été une rencontre forte, réciproque d'ailleurs.
Et qui aura marqué votre vie,
oui,
comme...
Oui, j'ai fait 3 livres d'entretien en dehors de tous mes livres personnels. Les 3 m'ont marqué. Raymond Aron, parce que c'est un philosophe que tout le monde préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Lustiger. Et le plus simple des 3, c'était Jacques Delors que j'ai fait en dernier. Mais Lustiger, oui, c'est intéressant parce qu'il était à la fois laïque et juif et catholique. Donc c'est quand même intéressant ce triangle.
Et ça vous a apporté, là, par rapport à votre vie personnelle, cette rencontre, comme un modèle ?
Non, pas modèle, parce que si vous voulez, en même temps, je suis très politologue, donc je vois bien les rapports sociaux, les rapports humains, je vois bien les forces et les faiblesses de l'Église, ça ne me dérange pas, mais j'en suis pas dupe. Je ne suis pas en train de faire une critique institutionnelle, mais en même temps, ce qui m'intéresse toujours dans l'Église, c'est comment, sociologiquement, l'institution aurait déjà dû disparaître depuis très longtemps. Donc si elle perdure, si elle demeure, si elle se reproduit et se régénère à chaque fois, c'est qu'évidemment, il y a quelque chose d'autre. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas la sociologie de l'Église qui m'intéresse, c'est comment les hommes, à chaque génération, relancent les dés et relance, si vous voulez, cette espèce d'extraordinaire eschatologie, croyance, force, foi, etc. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé dans Lustiger, c'est que ses qualités et ses défauts étaient secondaires par rapport au fait qu'il était porteur, à un moment donné, de quelque chose dans l'Église de France, qui était naturellement en relation avec ce que faisait le pape, parce qu'il y avait quand même cette espèce de communauté entre les deux. Et puis, j'aime cette espèce de volonté qu'ont les hommes de faire l'impossible. Voilà. Ce que je trouve qui est fort à chaque fois dans l'Église, c'est ça. C'est, on est dupe de rien, mais on essaie de faire.
Vous nous l'avez dit, hein, vous avez la foi. On peut dire ça plutôt. Comme ça. Plutôt la foi.
Je dirais plutôt.
Pourquoi plutôt?
Plutôt parce que c'est le genre de choses sur lesquelles la réponse définitive est difficile. Je suis un agnostique qui tend vers la foi, si vous voulez une équation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, ça m'intéresse. Voilà, ça flotte. Ça flotte. Quand je dis ça flotte, ce n'est pas négatif, c'est au contraire... Les pensées, les rêveries, ça flotte, c'est ce qu'il y a de plus important. Les sentiments, ça flotte aussi, c'est ce qu'il y a de plus important.
Mais est-ce que vous pensez, donc, bon, si je reprends quand même, que vous avez quand même la notion de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la notion de Dieu.
Ah,
vous, elle est présente. Hein.
Ah oui, depuis toujours.
Vous nous l'avez dit. Si vous n'aviez pas cru en Dieu, je vais prendre le terme croire, mais on pourrait le remplacer par autre chose. Est-ce qu'à votre avis, votre vie aurait été différente hein?
Par
vos choix. Ouais.
Par personnalité, je ne pense pas que je serais scientiste et positiviste. Parce que... Je vois que je ne crois pas du tout suffisamment à la puissance de la rationalité pour qu'elle organise le monde et la science. Bon, je suis un scientifique, donc je pense que la rationalité scientifique, ça existe. Maintenant, ce qui m'intéresse constamment, c'est comment la rationalité scientifique est obligée de devenir modeste face à la folie des hommes. Donc, ce que j'aurais été, je pense que j'aurais été un humaniste, ce que je suis en fait, en définitive. C'est-à-dire, après tout, on peut être un humaniste athée sans difficulté, mais je me méfie... À la fois, je suis un idéaliste au sens où je pense que ce sont les idées qui mènent le monde et pas les intérêts. Je ne suis pas marxiste. En même temps, je ne suis pas naïf au sens d'un idéaliste naïf. Disons que je trouve que la situation actuelle pour des adolescents et des jeunes est un peu difficile parce que les grandes eschatologies, si les grands systèmes philosophiques et politiques sont un peu effondrés. En même temps, il faut constamment d'utopie et de la critique du système capitaliste qui en lui-même n'est pas extraordinaire. Je trouve que les religions ont une place formidable dans l'avenir parce qu'elles gèrent non pas de la sociologie politique mais de la métaphysique. Et de la rêverie et du doute. Et donc, je pense que, après avoir peut-être passé un siècle de difficultés, je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne l'Occident, elles correspondent à une telle espérance humaine qu'elles vont retrouver de la place. Et je crois qu'il faut bien qu'elles restent dans cet espace de la métaphysique et pas uniquement dans l'espace de la sociologie. Bien sûr qu'il peut y avoir de la sociologie religieuse. Bien sûr, les églises sont inscrites dans le temps, l'espace et la politique. Mais après tout, plus nous sommes dans des interactions techniques, mécaniques, avec des systèmes d'information et de communication, plus tout est rationnel, plus tout est efficace, plus tout est rapide, plus tout est interactif, plus il faut au contraire laisser d'autres espaces. Et à la limite, la religion, la poésie, la littérature, l'art, enfin tout ce qui permet, disons, d'ouvrir le chapeau de la rationalité.
Et après cette vie que nous connaissons actuellement, là, y a-t-il quelque chose pour vous? Est-ce que vous croyez en la religion catholique qui nous dit qu'il y a quelque chose après?
Intuitivement, oui. Mais comme tout le monde, j'en ai pas énormément de preuves. Et
pourquoi oui. Intuitivement? C'est du ressenti,
que...
c'est ça?
Oui, parce que si vous voulez, ça c'est une réaction. Je trouve que tout est tellement superbe d'un point de vue intellectuel et rationnel. Enfin, de la nature à la culture, à la matière, il y a une telle intelligibilité, une telle intelligence accumulée là aussi, que ce serait bizarre qu'il n'y ait que l'accumulation de l'intelligence des hommes. Mais c'est possible, c'est ce que pensent les personnes qui sont athées. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Où ça se situe, comment, je ne sais pas. Est-ce que c'est la résurrection des âmes? C'est très fort, le discours catholique là-dessus. Il y va fort, si je puis dire. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il annonce des choses complètement folles, complètement irrationnelles, qui n'ont aucune raison d'être. Et je trouve que c'est assez fort de le dire. Si vous voulez, ce qui me plaît dans le credo catholique, c'est ça. C'est qu'il affirme des choses totalement givrées, quoi. C'est ça qui est intéressant, par rapport à une démarche rationnelle normale.
Et vous pensez pas que c'est nous qui dans notre capacité humaine, hein, qui avons créé tout ça pour nous rassurer finalement et se dire qu'on n'est pas là pour rien?
Oui, c'est ce que disent les anti-religieux et qui disent qu'en définitive, la religion est une idéologie que les hommes ont construite pour donner un sens à leur existence. Je suis pas sûr de ça parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors que l'homme est capable de faire les pires barbaries, le XXe siècle l'a été, pourquoi est-ce que la question du beau, du bien et de l'autre démarre régulièrement? Alors, j'ai pas de réponse. En tant que catholique, j'ai tendance à penser que c'est à cause de la religion. Mais on peut avoir une réponse athée. En tout cas, que l'on soit athée ou croyant, il y a quelque chose qui fait que l'homme est capable de faire les pires saloperies et que quelque part après, il a toujours envie de repartir du côté de la générosité, du don, du respect d'autrui et de la beauté. Et donc, par conséquent, il y a quelque chose qui le pousse. Et disons que Je suis plus intéressé par dégager les conditions politiques pour que cette aspiration au beau, au bien existe, plutôt que de constater que l'homme est pourri. Voilà, il est pourri, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable constamment de refaire du beau, du bien et de donner. Et cette demande, ce besoin de donner de l'amour, qui est au cœur de l'âme humaine, évidemment, renvoie pour moi tellement à la foi catholique que c'est en ça que je fais le lien. Mais je reconnais que d'autres ne peuvent pas le faire. Mais quand même, disons que ça me trouble. Le fait que l'homme a quand même envie de donner de l'amour, ça veut dire qu'il n'est pas construit autour de son propre sujet. Et donc cette espèce de recherche du dépassement qu'il a de lui-même, que ce soit dans le travail, dans la relation amicale, dans la politique, dans le syndicalisme, peu importe, c'est quelque chose. Et en ça, oui, je m'inscris assez bien dans la tradition catholique, tout à fait.
Et au soir de votre vie, vous pensez réagir comment? Vous y préparez? Vous y pensez?
Pas du tout,
parce que
je fais plutôt partie des hyperactifs. Alors on peut dire que c'est pour combler un trou de métaphysique ou une incapacité à être, on peut raconter ce qu'on veut, mais enfin en gros... Non, je pense que je suis un hyperactif parce que je comble une angoisse évidemment face à la mort. Mais c'est pas non, je suis pas. Disons que j'ai une énergie qui est forte, qui me permet de faire énormément de choses depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas dupe sur la fin des choses et je vois suffisamment autour de moi l'usure physique et l'usure intellectuelle. J'ai quand même vu l'usure d'un certain nombre de grands intellectuels. Et vous savez, quand vous voyez un grand intellectuel qui vieillit et qui meurt, c'est comme on le dit classiquement partout, c'est des bibliothèques, des savoirs, des accumulations qui ne sont pas reproductibles. Donc il y a quelque chose de profondément triste. Et moi-même, quand j'écris ces livres, qui me poussent, parce que l'écriture, vous êtes poussé par la création, hein, c'est elle qui vous pousse, je me dis à quoi bon, parce que par définition, ce ne sera pas éternel, mais vous n'y pouvez rien. Il y a une espèce de... Essayez de comprendre le monde contemporain, apporter la petite pierre. Et comme je travaille sur ce secteur de la communication qui est si dévalorisé et si important pour la paix et la guerre du 21e siècle, là c'est vrai, j'ai une énergie débordante. Mais je ne me fais pas d'illusions quand je vois comment les médias sont peu intéressés, comment les politiques sont peu intéressés, comment les universitaires sont peu intéressés par cette grande question de la communication. Mais tant pis. Raymond Aron m'avait dit une phrase qui me hante. Il m'avait dit, oh Dominique, avec vos idées, votre personnalité, votre style, vous souhaitez de vivre vieux parce que vous serez reconnu. Et il m'avait dit ça, j'avais 30 ans, ça me cassait les pieds. Bon, j'en ai 57 aujourd'hui. Je voudrais bien éventuellement ne pas attendre trop tard. Mais disons que j'ai une énergie. Alors, est-ce que cette énergie s'origine? Elle est forte, d'après ce qu'on me dit, de ceux qui me critiquent ou de ceux qui m'aiment bien. Est-ce qu'elle s'origine dans une foi? Je ne sais pas. En tout cas, je préfère voir ce que l'homme est capable de faire de beau et de grand, plutôt de constater ces mesquineries que je connais comme tout le monde.
Merci beaucoup, Dominique Volton, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie.